Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Émission spéciale Qu'est-ce qu'on déguste ? Puisque aujourd'hui, nous sommes à deux jours des Empélofolies du Cabardès. Alors pour l'occasion, toute l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste s'est déplacée jusqu'à Moussoulins. Moussoulins, c'est un petit village. Où est-ce qu'on est ici ? Dans l'Aude, hein ? C'est ça ?
Oui.
On est déjà dans l'Aude. Et c'est la 14e édition des Empélofolies du Cabardès. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Ben, imaginez que c'est un peu la fête de l'AOC du Cabardès et de la Tibur Mélanosporum, comment tu dis ?
Tuber Mélanosporum.
Voilà, enfin la truffe, quoi.
La truffe noire, pas la truffe blanche.
Celle du Périgord ?
Ça peut, c'est la même.
Hein, c'est celle-là ?
C'est la même.
C'est une cabardesse.
Voilà, voilà. Alors on a Pascal Olivier, bonjour.
Salut à tous.
Georges Bonfils.
Salut. Bonjour à tous.
Christophe a fait le déplacement, et on lui dit bonjour de loin parce qu'il est déjà en train de
servir.
Salut, ça va ?
Ça va bien.
Et on est accueilli ici par l'association des Empélofolies du Cabardès. Empélofolie d'empélographie, mais ça tu nous expliqueras peut-être. À moins que ce ne soit directement Marie-Cécile Micoulot, qui est la présidente de l'asso, qui nous le dira dans quelques instants. Marie-Cécile Micoulot, bonjour.
Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici à Moussoulins, à la Maison du Temps Libre. Et pour cette 14e édition des Empélofolies du Cabardès, fête de la truffe et du vin du Cabardès.
Et on a une heure et demie pour en faire le tour. On aura l'occasion de discuter avec Richard Planas, qui est vice-président des Empélofolies. Bonjour Richard Planas.
Bonjour.
Vous nous parlerez justement de l'AOC du Cabardès, mais aussi d'un autre cru, parce que l'idée en fait des Empélofolies du Cabardès chaque année, c'est d'inviter un cru étranger. Et là, pour le coup, il est vraiment étranger, puisque c'est un cru de près de Barcelone, là-bas. De
Catalogne.
Alelia. Voilà. Pas rien à voir avec Calelia où tu passes tes vacances en permanence.
Que Calelia, je connais.
Tu connais, hein. Nous discuterons également avec Isabelle Kayser, qui est l'une des 95 bénévoles qui vont s'activer durant tout le week-end pour ces Empélofolies, avec Gérard aussi, qui lui aussi donne de la sueur pour que ça puisse se
donne
faire.
Donne de la salive, c'est le responsable com.
Ouais, et plus de 5000 personnes sont attendues, ne serait-ce que dimanche ici, à Moussoulins, et si on ajoute ceux qui seront à Montaulieu demain, ça va faire beaucoup, beaucoup de monde durant tout le week-end. Yves Gobert va nous accompagner pendant toute cette émission. On fera connaissance avec lui. Il est accordéoniste, mais il est surtout facteur d'accordéon. Il nous parlera de son métier et comment il l'exerce ici à Moussoulins. Quoi d'autre ? Claire Taoussi est la directrice des Empélofolies littéraires de Montaulieu, justement. Elle viendra nous rejoindre tout à l'heure pour nous expliquer qu'est-ce qui va se passer justement à Montaulieu. Voilà, je pense que tout le monde est prêt. Les verres sont déjà remplis. C'est Qu'est-ce qu'on déguste, et ça commence comme ça.
Thank you.
Bravo Yves Gobert, on aura l'occasion de faire connaissance tout à l'heure. En attendant, ben, je sais pas, venez vous asseoir avec nous, prenez un verre, parce que on est déjà en train de boire, nous, dans ce qu'est-ce qu'on déguste. Et alors, c'est pas de l'AOC Cabardès, mais on aura l'occasion d'en parler.
Du Chardonnay des Pays d'Oc.
Je sais pas, vous nous le présentez, ce petit vin, Richard Planas, vite fait comme ça.
Donc, on a choisi pour égayer, réveiller les papilles, un vin blanc. Alors, l'AOC Cabardès n'existe qu'en blanc et en rosé, qu'en rouge et qu'en rosé. Donc là, c'est un Pays d'Oc, cépage chardonnay, sur le fruit, l'ananas, hein, on va dire, et la fraîcheur.
Alors, qu'est-ce qu'on déguste spécial en pélofolie du Cabardès ? Madame la Présidente, Marie-Cécile Micoulot. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 ans dans la tête des Moussoulénois.
Et je vous dirai aussi qu'on s'appelle les Sanquetous, mais ça, on verra tout à l'heure.
Sanquetous.
Je vous en parlerai plus tard. Si...
Alors, il y a 14 ans, les Moussoulénois ont l'idée de créer cette fête autour des vins. Il n'y avait pas la truffe encore à l'époque.
Il n'y avait pas la truffe. C'était uniquement une fête du vin, comme il y en a un peu partout.
Et c'était en juin.
Voilà. Donc ça s'est pas mal passé pendant quelques années, et puis il se trouve que le président de l'association à ce moment-là était le maire du village, Michel Escande, et qui était également conseiller général et puis président de l'association des trufficulteurs au doigt.
Il était pour le cumul des mandats.
Un cumulard.
Voilà. Donc ça, quand il a pris la présidence de l'association des trufficulteurs au doigt, s'est dit on pourrait lancer cette fête de la truffe et la lier avec notre fête des vins qui avait lieu en été, qui n'était pas quand même bon en été. Il y a beaucoup de manifestations, hein. Et donc on l'a fête en hiver. Voilà, la première édition, Richard, ça a été en 2000. Voilà.
Vous, et alors, vous êtes passé en 2000 d'à peu près un petit 500 visiteurs sur la fête de juin. Tu vois, t'allais aux Empélofolies à Moussoulins en juin. Il y avait 500 personnes qui passaient sur la journée, qui s'ennuyaient un petit peu.
Non.
Et qui râlaient parce qu'il pleuvait.
Richard, il y avait de super quand même manifestants. On faisait le concours du barrique.
Je blague, mais entre les 500.
Oui.
Que vous attiriez au mois de juin.
C'est
et
vrai.
Les 5000, tout
vrai,
d'un coup,
vrai.
Vous avez même dû être drôlement surpris, non, de voir arriver, de voir débarquer
peut-être
sur une journée 5000
personnes. Peut-être ça n'a pas été 5000, le responsable com, des fois, peut-être grossit un peu.
Ah, hein. Il est où, Gérard? Il m'a dit 5000 tout à l'heure.
Oui. Bon, ça dépend des années, ça dépend du temps et de beaucoup de paramètres.
Non, mais la première année, il y a eu du monde quand même, beaucoup
plus.
C'est la truffe qui vous a amené ces gens qui sont venus, ces visiteurs.
Si d'autres veulent parler, parce qu'il y en a qui sont à même de parler là-dessus. Jean-Louis
Micoulot, trufficulteur.
Oui.
Voilà, c'est vraiment la truffe parce que bon, on a tous les graphiques qui l'attestent. D'à partir de 2000, année où on a lié la truffe et le vin du Cabardès, au niveau départemental, ça a été un gros boom vraiment. On était à 5-10 hectares de plantation annuelle. On est passé à 40 hectares. Quoi. Et d'à partir de 2000, ça n'a pas arrêté. Au niveau de la croissance, pareil, des exploitations plantées, pareil, on a vu du mieux. Et au niveau aussi des adhérents trufficulteurs dans l'Aude, quoi. Voilà, on est passé un peu d'années, on est maintenant 600 adhérents.
Et moi, je reviendrai juste pour le grand public. Venir à une fête du vin, il y en a des dizaines et des dizaines hein, dans notre belle région, que ce soit en Midi-Pyrénées ou chez vous, ici en Languedoc-Roussillon, c'est pas ce qui manque. Mais se rajouter quand même ce petit bonheur qu'est la truffe, oui. Hein, cet or noir là, ou ce diamant noir. Parce que l'or noir, c'est le pétrole.
Mais... Oui, c'est ouais. le diamant noir. De la gastronomie.
Voilà, ça interpelle davantage. Et les gens viennent voir ce petit côté magique.
Tout à fait. Et puis, quand même, moi, je tiens à signaler et à défendre fort, haut et fort. On est une association, ce ne sont que des bénévoles, et on travaille, enfin, on propose des mets truffés à des prix tout à fait abordables, parce que bon, on sait que la truffe, le kilo de truffe tourne autour de 1000 euros le kilo. Mais pour entre, on va dire, 50 centimes d'euros et 6 euros, vous pouvez déguster un mets truffé. Oui. 50 centimes, on vous proposera les toasts au beurre truffé. 50
et c'est
centimes.
De la truffe du Camardin. C'est pas de la, vous truffe. Garantissez que c'est pas la truffe chinoise.
Des Chinois, vous verrez, on les aura aux enfants.
L'an passé, 7 kilos de truffes, ils ont passé quand même sur cette histoire. Parce que l'idée, c'est la fête de la dégustation. C'est ça qui est
c'est
intéressant.
C'est la fête de la dégustation.
On vient passer son dimanche ici à Moussoulins et on vient et déguster. Quoi.
Exactement.
Déguster la truffe, déguster les AOC.
Les entrepins truffés, ça vaut entre 3 et 6 euros.
Voilà. Hein. Voilà. Alors quand même, bon, je ne sais pas à quel moment vous voudrez qu'on parle des entrepins, ils en parlera aussi.
Bon, on va en parler. On va en parler.
Donc, moi, ce que... Bon.
Alors, il y a cette fête-là, et puis il y a le samedi aussi.
Oui, je voulais justement, le samedi, demain matin, à Ventenac à Bardès, il y a un atelier gourmet-gourmand qui démarre à 10h, de 10h à midi. Une bénévole aussi, une de plus, hein, qui anime par ailleurs un atelier de cuisine tous les mois à Ventenac. Et donc, elle propose un atelier autour de la truffe, mais d'une façon assez simple. C'est comme ça qu'elle vous propose comment faire le beurre truffé, une salade truffée, ensuite, l'an dernier, c'était des coquilles Saint-Jacques, cette année, c'est, je pense qu'elles y sont toujours, du brie truffé. Bien sûr qu'on le propose à cet atelier à 25 euros pour 12 personnes uniquement. Vous imaginez que c'est complet.
C'est complet, ça fait 6 mois, quoi.
Exactement. Et de 15 jours. On pourra me proposer un autre l'après-midi. Et si vous avez envie demain matin d'aller y faire un tour, je vous y amènerai.
On ira.
Voilà.
On va y aller.
on va voir en détail. On a du temps pour voir en détail la suite de la fête. Mais il y a deux grands axes. Il y a Moussoulins et Montaulieu.
Montaulieu parce qu'il y a le village du livre.
Le village du livre.
Aussi pourra peut-être vous en parler
tout à l'heure.
Voilà. Mais c'est autour de la littérature, là.
Truffes. Littérature et AOC Cabardès.
C'est un bon coin, ça. On devrait venir s'installer là.
Vous y attend. Et d'ailleurs, on est ravis que vous soyez là aujourd'hui.
Richard Planas, est-ce qu'on peut s'attaquer à une dégustation d'un des AOC du Cabardès? On peut faire ça?
Tout à fait. Ouais. Je vous propose de démarrer par un domaine Loupia, millésime 2010. Donc, si vous voulez, je peux vous présenter le vigneron.
Alors. Hop. On remplit les verres. Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on remplit les verres, Georges, prépare-toi, ça va être à toi pour le jazz dans un instant. Mais vous pouvez nous présenter le vigneron, oui, tout à fait.
Voilà, le vigneron, c'est Monsieur Ponce, beau-fils du fondateur, Monsieur Loupia.
Vigneron indépendant, je vois sur la bouteille.
Vigneron indépendant, vigneron en agriculture biologique, l'un des tout premiers dans ce département à avoir produit selon le principe d'agriculture biologique. Donc vous avez là un vin qui pour moi est prêt à boire sur le fruit, tout en finesse et légèreté, parfait pour démarrer cette dégustation de vin rouge. Peut-être vous parler du Cabardès en général.
Après. On goûte sur
après
du jazz.
Boire.
Voilà. Et après on en parle.
Aujourd'hui j'ai choisi. Nous sommes dans l'Aude, j'ai choisi un musicien audois, c'est Jean Osmond, maintenant il a 92 ans, il est le doyen des musiciens de jazz audois. Il est issu de la race. Il est issu de la race des seigneurs du swing. Bon, il est né un 10 janvier 1921 à Paris, et l'été 39, il descend chez son oncle à Bruguerolles dans l'Aude pour faire ses études au lycée de Carcassonne. De toute façon, il va rester dans l'Aude, actuellement il vit à Bages. Il y montera aussi une petite formation qui animera les surbooms des copains et des copines de Carcassonne. Il y joue de la trompette sous le nom de Johnny Osmond, ce qui fait un peu plus américain que Jean Osmond. Mais ça ne s'arrêtera pas là, car en pleine guerre, il part à Montauban pour rencontrer Hugo Panassier. Ce dernier est le musicologue de jazz, fondateur du Hot Club de France, et qui lui donne son accord pour monter un Hot Club à Carcassonne. Donc il monte le Hot Club à Carcassonne, il fondera un orchestre qui s'appellera le Quintet du Hot Club de Carcassonne. Et cette formation qu'il dirige sera plusieurs fois primée au concours de Pleyel à Paris. Il joue de la trompette à ses débuts, ensuite il passe au trombone à Pisson, il joue aussi du piano, du vibraphone et il chante. Il est multi-instrumentiste. Là nous l'écoutons dans un morceau qui a été composé aussi par un célèbre audois, c'est Charles Trenet. Et le morceau s'appelle « Que reste-t-il de nos amours ?» « Tromboniste de l'Aude, qui est accompagné par des musiciens toulousains. Il y a Thierry Ollet à l'orgue, Jacques Valentin à la guitare et Bernard Monville à la batterie. You
need a real man. Eh bien, nous voilà donc dans ce charmant village de Moussoulins, 900 habitants, très bien accueillis. Dans cette salle du temps libre. C'est beau d'avoir une salle du temps libre.
Maison du temps libre.
Maison du temps libre, voilà.
Maison du temps libre.
Moussoulins, adossé à la Montagne Noire, orienté plein sud, ça domine Carcassonne. Alors, c'est pas le centre géographique de la OC Cabardès, c'est plutôt dans le... Parce qu'elle est le long de la Montagne Noire, donc en direction d'un côté vers la Méditerranée, de l'autre côté vers l'Atlantique. On est plutôt du côté atlantique. Donc, mais quand même avec un climat méditerranéen, là, il fait beau et il y a du ciel bleu, il y a du vent, comme toujours.
Il y a toujours
ici.
Du vent.
C'est pour ça qu'il fait soleil.
Là où c'est Cabardès, 650 hectares cultivés, 5 caves coopératives, une vingtaine de caves particulières. Donc c'est à la croisée des vents d'est et vents d'ouest, des influences atlantiques et méditerranéennes, et ça mélange un peu tout ça. On le ressent dans ce que l'on boit là, donc des vraiment, c'est profond, c'est charnu, c'est ensoleillé, mais pas trop, c'est pas vraiment lourd. Des cépages Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache, ça c'est obligé dans l'AOC, dans le cahier des charges de l'AOC. Il y a aussi du Côte, du Fer, du Cinsault en secondaire. C'est pas mal, c'est des vins assez complexes. C'est des vins quand même qui titrent celui-là 13,5.
Ouais.
Donc c'est quand même chaud.
Ça
se boit sur des civets, ça se boit sur des charcutailles. Ça se boit très bien avec du beurre truffé. C'est assez étonnant. Moi je pense que toujours le vin blanc est meilleur sur la truffe, mais là ça sort bien. C'est sympa, on est bien content d'être à Moussoulins.
Alors Richard Planas, est-ce qu'il a dit des bêtises déjà sur l'AOC du Cabardès, Pascal Olivier?
Il a dit que des vérités, et d'ailleurs je ne sais plus trop quoi dire, parce qu'il a dit l'essentiel. Alors l'essentiel de l'originalité d'un cru, puisque dans un cru je crois qu'il faut rechercher l'originalité, c'est cette confluence de climatique dans laquelle se trouve ce vignoble du Cabardès, à la croisée, on va dire, des influences climatiques méditerranéennes et océaniques. Ce qui permet d'avoir un encépagement mixte au sens de l'écologie climatique, c'est-à-dire d'avoir des cépages atlantiques que l'on connaît en terre girondine, le Merlot, le Cabernet, face à l'Atlantique, le Cabernet Franc aussi, avec le Cabernet Sauvignon, et puis également une influence climatique qui permet la culture de cépages méditerranéens comme la Syrah ou le Grenache. Et donc ces deux influences se retrouvent dans le vin, ça a été très bien dit. Où on a à la fois la générosité en bouche d'un vin qui est là, qui occupe le palais, mais également cette fraîcheur qui donne de la finesse, une relative légèreté au produit. C'est le côté atlantique, en tout cas sur ce premier produit.
Et on doit ajouter que l'AOC Cabardès, ou le vin de Cabardès, ça date pas d'hier, puisque depuis à peu près l'an 1000, bon, donc comme toujours, les petits moines voyageurs, ils ont implanté différentes abbayes dans le coin, et bien sûr, comme partout, ils ont amené, ils ont cultivé de la vigne, ils ont amené des plants d'un peu partout, etc. Mais déjà, dès les Romains, qui étaient des grands planteurs de vigne, ils avaient planté de la vigne ici. Donc, ils avaient ce mix de climat était très favorable à la culture de la vigne.
Combien il y a de vignerons, Richard Planas, dans l'AOC Cabardès aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui,
on veut des noms, hein. On veut des noms.
Nous dénombrons exactement 30 domaines, châteaux et caves coopératives. Ouais. Qui produit du Cabardès. Donc c'est vraiment une petite appellation, c'est un véritable cru, avec des styles de vin qui correspondent à chacun des vignerons, tout en appartenant à cette même famille.
La coopérative est toute petite.
Alors,
il y en a deux, non ?
Il y a plusieurs coopératives.
Il y a cinq.
Il y a Laurent Cabardès.
Alors, c'est... Voilà. Oui. Les coopératives, 5 au départ, actuellement 3.
J'adore
coopérative dont le siège est à Arzens, une autre dont le siège est à Ville-Sec-Lande, et une dernière dont le siège est à Conques. Donc ces trois coopératives sont intercommunales et se partagent, je dirais, le territoire. Et à côté de ça, donc des vignerons de taille parfois grande, souvent des... aussi quelques vignerons qui travaillent sur de toutes petites surfaces et avec des produits très, très typés, très marqués.
Le cahier des charges, tu le disais tout à l'heure, Pascal, de l'AOC, alors c'est 4 cépages, de quelle manière, dites-nous?
C'est 4 cépages obligatoires, répartis avec une relative liberté pour le vigneron, entre 52% de cépages dits méditerranéens et 52% de cépages atlantiques. Le monocépage n'est pas autorisé dans l'appellation. On recherche au travers de cet assemblage une complexité que les monocépages n'ont que très rarement.
On n'est pas en Bourgogne.
À part pour les vins de pays.
Donc, Syrah, Grenache, c'est ce que vous appelez le cépage méditerranéen. Et Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.
Et Merlot.
D'accord.
Vous êtes les seuls à faire ça.
Alors, on pourrait le dire... On m'en dirait pratiquement pas.
Alors on a qu'à le dire.
On peut retrouver cette conjonction atlantique-méditerranéenne dans les côtes de Provence. Voilà. Et sinon, nous sommes la seule appellation à avoir cette particularité.
Et donc, petite appellation, et au niveau de la distribution, du rayonnement de ce vin, on en boit où? Est-ce qu'on en boit ici exclusivement, plutôt dans le sud de la France? Est-ce que ça s'exporte? Est-ce que les Chinois connaissent le Cabardès? Ou les Belges au moins?
On peut en boire effectivement sur le territoire, ça je... Voilà, c'est un scoop, c'est sûr. Il s'en exporte hors du territoire national français 30%, ce qui est une moyenne conséquente. Et donc, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Mais par contre, vu la petitesse d'entre crus, il n'y en aura pas pour tous les Chinois. Ça, c'est sûr.
Ça coûte cher à chaque fois, les bouteilles, une bouteille d'AOC Cabardès, hein, en moyenne?
Pas assez cher, à mon goût. Je pense que la qualité des produits mériterait d'être... commercialisé.
Par exemple,
ce qu'on
est en train de voir, le domaine Loupia Tradition.
Alors là, on doit se situer sur un prix autour de 7-8 euros. Ouais. Les premiers prix en Cabardès sont autour de 3,50 euros. Et les bouteilles les mieux vendues, des produits d'exception, sont plutôt à autour de 20 euros pour des cuvées très limitées.
Merci. On reviendra vers vous un petit peu plus tard, Richard Planas, vice-président de l'association des Empélopholies du Cabardès. Vous savez que c'est dimanche à Moussoulens, les Empélopholies, hein, le côté dégustation, on va en reparler. Mais c'est aussi samedi, donc, à Montaulieu. Samedi, c'est demain. Et on continue d'en parler dans quelques petites minutes. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Alors, si vous prenez le train en marche, sachez que c'est une édition spéciale. L'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste est partie en expédition. Oui, parce que nous ne sommes jamais allés aussi loin. De temps en temps, nous sortons, nous allons en direct depuis les restaurants, depuis les caves, depuis les producteurs. Hein, ça nous arrive de sortir du studio du 5
Rives Lavoisier. Jamais allé plus loin qu'Albias.
Mais on n'est jamais allé plus loin. Si, on est allé à Cordes-sur-Ciel, quand même, au restaurant l'expédition. De Monsieur Turiès, et c'était quelque chose. Aujourd'hui, nous avons carrément changé de région. Nous sommes en langue d'Ocroussillon, dans le département de l'Aude, à Moussoulens. Tout petit village. Bah si, il y a 900 habitants. Voilà.
En plein milieu du pays Qatar.
Qui accueille ce week-end les Empélopholies du Cabardès. Ça fait 14 ans qu'une équipe de bénévoles organise cette ode à la truffe et au vin, AOC Cabardès, donc gastronomie, vin et littérature, puisqu'il y a déjà à Montaulieu, le samedi, les Empélopholies littéraires. On en parlera un petit peu plus tard. On a déjà discuté un petit peu avec Marie-Cécile Micoulot, présidente de l'association, et avec Richard Planas, vice-président donc de cette fête. Des AOC du Cabardès. D'ailleurs, j'ai une question pour vous avant de me tourner vers Jean-Louis Micoulot, qui est trufficulteur. Tout le monde s'appelle Micoulot ici. Ça fait un peu mafia, je sais pas si vous avez vu. On n'est pas en Sicile, mais presque.
Ils ont trusté le festival.
J'ai beaucoup aimé le domaine Loupia. Et alors, on a ce dépôt magnifique au fond du verre que vous me commentez immédiatement, Richard Planas, s'il vous plaît.
Alors, le dépôt dans ce verre signifie que ce vin n'a pas fait l'objet de surtraitement, que ce soit physique ou chimique. Et donc, c'est le dépôt naturel du vin avec l'âge, principalement constitué de cristaux de tartre, hein, tout simplement.
Vous savez surtout ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que mon verre est vide. Jean-Louis Micoulonon, je me tourne vers vous. Après Christophe, pardon, excuse-moi Christophe, c'est à toi.
Allez, on va faire un petit focus sur la truffe. Si je raconte des bêtises, eh bien, monsieur Micoulonon sera là pour me punir. La truffe est le nom donné à la fructification comestible d'un champignon qui se présente sous une forme plus ou moins globuleuse. Le champignon peut produire plusieurs truffes. Jusque-là, je pense que j'ai tout bon. Certaines truffes sont particulièrement appréciées des gourmets depuis l'Antiquité. Et la plupart des espèces de truffes sont très recherchées. Mais le nom de truffe est aussi donné à des espèces qui n'ont que peu de saveur. Hein, n'est-ce pas, Georges ? On avait parlé des truffes qui viennent de Chine, qui n'ont que l'odeur et pas du tout le goût.
Chine, Tibet.
Et la truffe noire, donc, ou truffe du Périgord, latin, donc, Tuber melanosporum, celle que l'on cultive ici, se trouve uniquement dans les sols calcaires à une profondeur de 1 à 15 cm au pied d'arbres donc dits truffiers, des chênes, des noisetiers, des tilleuls, des charmes. Elle se développe au printemps, elle grossit à partir de la mi-août pour arriver à maturité plusieurs mois plus tard et elle est alors ramassée, on dit cavée, à l'aide en général d'un chien truffier, d'un cochon, là ça semble plus compliqué, ou de mouches. Cette truffe, la Melanosporum, est la reine des truffes, au parfum, à la saveur recherchée. Là, on est en train d'en déguster, effectivement, c'est vrai. De taille variable, elle fait en général de 5 à 10 cm de diamètre et elle pèse entre 20 et 100 grammes. Et le record de la plus grosse truffe jamais trouvée est quand même de 10,5 kg. Donc là, c'était le pactole pour la personne qui l'avait trouvé.
À 1000 euros le kilo.
Là, c'est énorme. Les truffes appelées diamants de la cuisine servent dans la préparation de nombreux plats. Là, on en déguste avec de l'omelette. On peut en trouver dans des pièces de boucherie, dans les riz de veau, les volailles, les pâtés de foie gras, pâtés en croûte terrine. On peut l'utiliser lors de la fabrication de nombreux mets. On les mêle également aux farces, certaines sauces, aux pâtes, bouchées à la reine. Voilà. Pour en savoir plus, j'ai vu qu'il y avait dans l'Aude une maison de la truffe à Villeneuve-Minervois.
Tout à fait.
Où vous trouverez sur plus de 300 mètres carrés, à travers 5 salles thématiques, toute l'histoire de la truffe. Nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de la déguster là, en direct. C'est
alors
bon.
C'est drôlement bien. Moi, je trouve que elle se débrouille beaucoup mieux la truffe dans le beurre que dans l'omelette. Finalement, on la sent beaucoup plus hein, dans le beurre. Ça exhale vraiment la saveur de la truffe.
Il y a une raison. Monsieur Gaillard nous avait dit que la truffe, il ne fallait pas la cuire. Il fallait juste la tiédir.
Tout à fait. Là,
et dans l'omelette, elle est un petit peu cuite, alors que dans le beurre, elle est simplement pure.
Là, en fait, c'est du beurre truffé qu'on a mis dessus. C'est peut-être, à la fin. On a mis du beurre truffé au dernier moment.
Ah, mais c'est pour ça, c'est un tout petit peu plus dilué, quoi.
Voilà. Elle est un peu froide.
On parle pas la bouche pleine, Marie-Cécile. Jean-Louis Micoulot, trufficulteur de son état, vous avez une truffière ici à Moussoulins. Qu'est-ce qui a porté le postier que vous êtes sur l'univers de la truffe, dites-moi.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, Jean-Louis Micoulot, 51 ans, trufficulteur à Moussoulins depuis 94. Alors bon, ce qui m'a amené, c'est une passion avec un P majuscule. Je pense que pour se lancer là-dedans, il faut être passionné, mais vraiment une grosse passion.
Au départ, la passion de la gamelle, quoi. Enfin, de l'avoir dans l'assiette ou quoi.
Oui, vraiment. Je pense que ce qui m'a passionné, c'est vraiment ce nez, ce parfum. C'est vraiment typique, quoi. Et bon, j'ai cavé les premières truffes avec le grand-père. Et bon, après, c'est allé crescendo, quoi.
Mais au départ, c'était de la truffe sauvage.
De la truffe sauvage, oui. Que l'on trouve encore, hein, trouve, mais de plus en plus, elle se fait de plus en plus rare. C'est pour ça que, bon, sur le village, on est une quinzaine de copains, on est une quinzaine de trufficulteurs. Et on s'est aperçu qu'on cavait de moins en moins de la truffe dans nos garrigues. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose, chacun chez soi. Et voilà. Et tout doucement, nos efforts commencent à payer, quoi.
Cave sur bif, ça n'a rien à voir avec caver.
Si, le cave sur bif.
Voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment.
Caver, c'est chercher la truffe avec un cochon ou avec un chien.
Voilà.
Et vous, ici, il y a tellement de sangliers, c'est avec le cochon ou
Non, moi, je fais ça avec un chien, notamment avec un teckel de 6 ans.
Un teckel.
Voilà.
Comme c'est drôle.
Mais bon, ce qu'il faut savoir au niveau des auxiliaires pour la recherche, il peut y avoir des labradors, il peut y avoir des bergers allemands. Hein. Après, toute une question de dressage, de patience, et voilà. Hein.
On dit que pour bien dresser un chien, il faut un chiot, donc on les prend petits, et il faut enduire les mamelles de la chienne, de la mère qui les a mis bas, avec de l'huile de truffe pour que leur donner le goût, et là, ils deviennent fous.
C'est comme dans les aéroports, ils leur donnent de la coque.
Moi, je pense plutôt aussi comme les anciens qui disaient à l'époque on a des bons chiens de chasse, et vous savez pourquoi ils avaient des bons chiens de chasse? Parce que tout simplement sur le territoire il y avait du gibier, et la truffe il y a un peu de ça, hein. Votre chien, même qu'il soit très doué, si vous le faites promener dans des garrigues où il n'y a pas de truffe, il vous fera pas des miracles. Hein. Voilà.
Hein. Il va pas l'inventer.
Hein. Bon, c'est pour ça que bon, on avait de l'obstination, on a planté sur le village.
On a planté quoi? Des chaînes.
Des chaînes truffiers.
Attends, est-ce que je peux faire pousser?
Non, parce que
je m'en vais
tout simplement ici sur Moussoulins,
pas du tout.
Il suffit de faire un tour sur soi-même et on s'apercevra que la garrigue, elle est plantée de 95%. De chêne vert, quoi. Des chênes mycorhizées. Hein.
Et vous commencez à avoir un rendement.
Et on commence, voilà, c'est timide, mais bon, ça commence.
Ça prend quoi, 20 ans à peu près?
Eh bien, disons que moi je table sur 12-13 ans, quoi. Au bout de 12-13 ans, l'arbre peut commencer à donner ses premiers champignons.
C'est quoi mycorhizée?
Et bien, mycorhizée, c'est-à-dire qu'on achète des arbres qui ont un an et demi, sur lesquels on a inoculé le champignon tuber mélanosporum. Parce que là,
on a roulé les racines.
On parle vraiment du champignon le plus noble qui existe, quoi, tuber mélanosporum. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait des échanges avec l'Italie et j'ai goûté la truffe blanche d'Alba.
C'est autre chose.
Bon, c'est un autre produit. Mais bon, moi, personnellement, je préfère la truffe noire du Cabardès, hein, tout simplement. Ouais. Du Cabardès,
donc, on met les racines de ces petits arbres-là.
En contact avec les spores.
Il y en a qui s'accrochent là, et une fois qu'ils sont là-dessous, ça se développe ou pas, le mycélium?
Et tout ça, c'est le travail vraiment du pépiniériste.
C'est le mycélium, c'est bon, voilà.
Oui.
C'est bon.
Voilà. Oui,
ça, c'est le travail du pépiniériste, hein, voilà. Alors, bon, je disais que sur Moussoulins, bon, il y a une quinzaine de trufficulteurs, une quarantaine d'hectares de plantés. Moi, personnellement, bon, j'ai attaqué en 93 par une petite parcelle. J'ai mis une centaine d'arbres. Après, j'ai attaqué en 2000, j'ai mis 850 arbres. Et après, j'ai continué en 2010 pour mettre un millier d'arbres.
Et vous n'êtes pas embêté ici parce qu'il y a des milliers de sangliers dans la montagne noire. Je sais que ça doit être un sacré problème.
C'est justement que moi, avant de planter, j'ai résolu vraiment le problème.
Vous avez tué tous les sangliers.
Tu peux pas, il y en a non, trop, ça n'arrête pas.
J'ai des copains qui s'en chargent, ça va. Mais non, moi d'abord, j'ai pensé vraiment à la clôture. À la clôture, parce que c'est vrai que j'étais embêté par les chevreuils et par les sangliers. Et après, bien sûr, il faut penser...
Au ramasseur sauvage.
Non, à l'eau. Parce que planter des arbres, c'est une chose, mais sur nos terrasses calcaires l'été, quand il fait 45-50 degrés, si on ne sait pas comment on va arroser l'arbre... Moi, je le dis souvent, hein, c'est pas la peine de planter. Hein.
Oui, il faut qu'il y ait de l'eau.
Voilà, il faut de l'eau.
Et donc, pour le moment, il y a de la truffe dans vos truffières ou
pas? Ça commence. Hein. Oui, ça commence. Pour vous donner un ordre d'idée, bon, après, bien sûr, on n'a pas la prétention de comparer le marché de Moussoulens, de Villeneuve ou de Talleyrand à l'Albenque, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que après-demain, nous serons une vingtaine de trufficulteurs et je pense qu'il y aura une quinzaine, une vingtaine de kilos à la vente, quoi.
Un kilo voilà. Par trufficulteur.
En gros, hein, voilà, une moyenne, hein, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de marché, on a voulu créer 9 dates de marché dans l'Aude et on s'y tient. C'est-à-dire qu'on attaque la saison trufficole 15 jours après la date au niveau national, qui est le 15 novembre, nous on attaque le 15 décembre, et on l'a fini un mois plus tôt. Au niveau national, elle se termine le 15 mars, nous on la termine le 15 février.
Pourquoi? Parce tout que vous avez pas assez de truffes ou quoi?
Pour cibler tout simplement sur la qualité. Parce que moi je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est qu'en début de saison, les truffes qui sont vendues sont trop immatures. Et moi ce qu'on dit, c'est que quand on vend un champignon à 1000 euros le kilo, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de tromper le client. C'est pour ça que dans l'Aude, on a voulu à tout prix un contrôle d'une qualité irréprochable. Nous, toutes les truffes qui seront vendues après-demain sur le marché seront passées sous le nez d'un expert, seront canifées, on verra le veinage. Et il n'y aura pas de surmaturité, il n'y aura pas de sous-maturité, il n'y aura pas de truffes boisées. Tout ça, c'est des défauts.
Un produit parfait.
C'est pas pour dire, mais bon...
Et en plus, tu pourras les acheter qu'à l'unité.
Oui.
Tu peux pas arriver et dire, j'en veux un cajot. Ça ne marchera pas comme ça.
La première demi-heure du marché sera consacrée à la vente aux particuliers.
Voilà. Messieurs, dames, nous sommes en train de discuter avec Jean-Louis Micoulot, trufficulteur de son état à Moussoulens. Qu'est-ce qu'on déguste la suite? C'est encore avec un AOC que nous présente Richard Planas, un AOC Cabardès.
Magnifique bouteille qui nous est proposée là par les vignerons coopérateurs du Triangle d'Or. Alors le Triangle d'Or, c'est en fait la réunion de 3 coopératives communales qui sont Villallier, Villegayenc et Conques-sur-Orbiel. Voilà. Donc là, c'est un produit qui est le fruit d'une sélection parcellaire très, très affinée, avec des cahiers des charges très stricts, un petit peu à l'image de ce que vient de nous expliquer Jean-Louis Micoulot sur ses contrôles sur le marché de Moussoulens, c'est qui font qu'on recherche la grande qualité pour satisfaire le consommateur. Cette cuvée-là est un petit peu à l'image de ces truffes qui font partie des choses exceptionnelles. C'est une cuvée qui s'appelle Grande Réserve Platinium. Les mêmes cépages dont on a parlé, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah Grenache, mais par rapport au produit précédent, on a là un élevage en fût de chêne qui amène de la complexité au produit. On le retrouve aromatiquement sur des notes un petit peu vanillées, ce qu'on appelle les notes boisées. On le retrouve également sur la longueur en bouche. C'est un produit qui laisse un souvenir en bouche beaucoup plus lointain. C'est clair que ce produit-là appelle des mets un petit peu plus complexes, un petit peu plus structurés.
Ah oui, là, il faut aller sur le civet, ou même les charcutailles.
C'est pas aujourd'hui, on les a les charcutailles.
C'est pas aujourd'hui. On a les charcutailles.
Ah, bah, aujourd'hui. Si on a les charcutailles.
Bon, on s'en va, puisqu'on n'a pas le civet.
Il n'y a pas le civet.
Allez, la grande réserve Platinium. Vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste? Et le morceau musical maintenant nous est à nouveau proposé par Yves Gobert, accordéoniste, facteur d'accordéon ici. À Moussoulens, c'est à vous Yves. Voilà.
Un truc.
Ouais.
À Moussoulins, ils sont tous facteurs de quelque chose. Lui, il est facteur d'accordéon. Lui, il est facteur trufficulteur. Merci, la poste.
Ah oui. Yves Gobert, qui, avec qui on fera connaissance un petit peu plus tard. Alors, oui, une virgule, c'est ça que tu veux ? Vous savez qu'avec notre petite équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, très régulièrement, on se réunit, pas forcément toujours autour d'une table de studio, mais aussi autour d'une table, simplement, on aime bien ça. Et très souvent, on fait des concours de boudin.
Oui.
Et celui-ci serait en très bonne place dans nos concours de boudin.
Hein, ouais, il n'est pas farineux.
Il n'est pas farineux.
Il est bien relevé. Il est bien poivré. Relevé.
Mmh. Ouais.
On fait un concours de boudin. Il n'y a pas de la cannelle à donf. Hein,
n'en déplaise à... Comment s'appelle-t-elle, hein? C'est avec son grand chapeau. On fait des concours de boudin.
Elle est amusante.
Elle est amusante.
Attends. Et là, vous avez un pâté de lapin maison.
Non. Ah.
Vous goûterez, c'est Gérard Salvaire qui fait ça.
On aura droit à la
c'est
recette.
C'est pas que de la pomme.
On aura droit à la recette du pâté de lapin.
Non. C'est ça. Et Gérard.
Alors attendez, là, bah, si vous en parlez, il faudra en parler dans le micro. Gérard.
Gérard, tu en parleras dans le micro. À c'est limite, celui aux deux lapins.
Il y a un micro à côté. Hein,
voilà.
Oui, non, c'est du lapin, ce que j'achète, lapin de réforme. Lapine de réforme, quand elles ont fini, donc il y a beaucoup de viande, ou des vieux mâles de réforme aussi, qui pèsent 5 à 6 kilos.
Ah, des belles bêtes.
Voilà, que je désosse, à cru, évidemment. Et après, je fais la recette classique du pâté.
Mais c'est quoi, alors, pourquoi Marie-Cécile, elle a dit c'est aux deux lapins?
Parce que j'en ai eu fait une fois, mais c'est comme... C'est celui-là, oui, celui-là aussi, oui, mais c'est comme le pâté d'alouette, ça, une alouette à un cheval. C'est un lapin de garenne et un lapin de réforme.
Ah, il y avait un petit garenne dedans.
800 grammes et 6 kilos.
Voilà. Mais c'est aux deux lapins. Donc, sinon, c'est une recette traditionnelle de tous les pâtés, c'est par tiers que ça se passe. C'est un tiers de foie, un tiers de gorge de cochon et un tiers de viande. Une fois que tu as c'est tous les pâtés se font comme ça.
On peut faire tout.
Bon, là, ce qui a, j'ai mis du foie de volaille, pour que ça l'emporte pas sur le goût du lapin, un foie un peu neutre. Après, gorge de cochon pour le lard et la viande de lapin. Et ensuite, c'est un œuf par kilo de pâté, une dinde d'ail par kilo de pâté.
Un peu d'oignon ou un peu de...
Non, je veux que le goût du cépage ressorte. Donc,
c'est du lapin. C'est du lapin. Votre pâté.
Et 16 grammes par kilo de sel et 4 grammes de poivre frais par kilo de pâté.
Il est parfait.
Voilà, c'est comme ça que je l'aime. Je le fais parce que je l'aime, comme ça. I'm shaking me, you sweet man.
Oh, you just mean me. What I need is a refill. Alors, ce Qu'est-ce qu'on déguste est consacré aux empélopholies du Cabardès. Et je vous le disais en début d'émission, 95 bénévoles se réunissent pendant, j'imagine pas uniquement
toute
le week-end,
année.
Mais oui, un sacré paquet de temps pour pouvoir mettre ça en place. Parmi ces bénévoles, il y a Isabelle Kayser,
qu'on
a pu voir dans le Languedoc-Roussillon, parce que sur FR3 Languedoc-Roussillon, ils ont un petit programme qui est vachement sympa. C'est que quand ils font la météo, ils demandent à une association du coin de faire la météo, et comme ça, ils annoncent leur manifestation. Et du coup, qui c'est qui s'est collé à aller annoncer les empélopholies du Cabardès à la météo de France 3 Languedoc-Roussillon? Eh ben, c'est Isabelle Kayser.
Le début de la gloire.
Il faisait beau, au moins pour votre sur votre cas.
En tous les cas, j'y étais avec une autre bénévole, Eliane Conquet, qui elle-même avait déjà gagné le concours de cuisine au Tour de France. Là, elle est aussi bénévole ici, et bon, une vieille habituée des plateaux. maintenant, voilà. Ça y est.
Après, pour le Tour de France des plateaux, c'est facile.
Ah oui, eh oui, mais fallait le faire.
Dites-moi, 95 bénévoles, c'est quand même une sacrée organisation. Ça demande une certaine logistique. Comment vous vous organisez? Il y a des réunions par secteur. Il y en a qui font plus la décoration, d'autres qui font plus la cuisine, etc. Comment ça marche?
Ça s'est structuré un petit peu au fil du temps. On a créé des commissions. Moi, je fais partie de la commission restauration, puisque je suis plus attitrée à ce côté-là des Ampello. Mais ça s'est fait par affinité. On a au départ dit, moi je vais là. Et puis après, effectivement, il y a des personnes qui ont été un peu plus responsables que d'autres et qui ont bien voulu prendre la responsabilité de...
Vous, c'est quoi la responsabilité que vous avez prise?
Moi, je suis même pas responsable. Je suis à la commission de la restauration. Je fais partie de l'équipe qui est derrière les stands pour nourrir.
Pour fabriquer les fameuses,
les entrepains.
Les entrepains, oui.
Et combien vous en faites l'année dernière? Combien vous en avez vendu des entrepains?
Combien?
3200. Dites-le bien dans le micro, s'il vous plaît, Gérard.
3200, là, on fait les statistiques, y compris la soupe. On appelle entrepain tout ce qui est vendu. Hein. Donc, 3200 en 2 heures.
Donc, il y avait
en
la...
En deux heures de temps.
On ouvre à 11h30. On ouvre les stands. Et comme il fait froid, qu'il y a du soleil, souvent, tout le monde a très envie de goûter à tous les produits.
Et donc là, faut envoyer.
Voilà, ça va de l'omelette aux entrepins de magret truffé, aux entrepins au foie gras.
Combien vous êtes pour servir ça, pour fabriquer?
On est 5 ou 6 par stand.
Davantage, Isa, je par pense qu'on est par stand.
Enfin, au magret, oui.
Au magret, par exemple, au magret, on est une douzaine. Hein. Ah
ouais. Alors, dimanche, vous ne savez pas quoi faire. Prenez votre bagnole, vous partez de Montauban ou de Rodez ou de... On a mis une heure et demie pour venir. Vous faites Toulouse, autoroute, vous faites les petites routes comme vous avez envie. Si vous prenez l'autoroute, vous sortez à Bram. Mm-hmm. Et puis Bram, vous cherchez la 113, ça vous emmène, après c'est indiqué Moussoulins sur la gauche. Bon, vous arrivez là dimanche, pour maxi 6 euros, c'est le truc le plus cher quoi. Pour maxi 6 euros, t'as un entrepain, non?
À la truffe.
Quoi? Il y a plus cher? Ben oui, mais bien sûr, vous pouvez parler Marie-Cécile.
Je peux parler.
Marie-Cécile, vous pouvez parler.
C'est vrai, Rémi, il y a tous les entrepôts, mais il y a plein d'autres choses. Dès 10h, ne manquez surtout pas la promenade viticole. C'est un grand moment. Et la première promenade viticole à 10h, les commentaires sont faits par quand même deux personnalités. Jean-Louis Micoulot pour la partie truficole, Richard Planas pour la partie cabardès.
Ah oui, on
l'espère.
On a les bons, là.
Non, là, j'espère, il y a le... Nous, enfin.
Et donc, ça, c'est quand même important. Bien sûr, tout ce qui est ensuite, restauration, je voulais signaler qu'on a une création cette année. Chaque année, Isa vous en parlera, elle parlera du foie gras truffé. Mais moi, je vais vous parler de la création de cette année. On fait venir Didier Agnès, qui est chef des cuisines à l'hôtel... Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est pas tout près, mais il se trouve que c'est un Carcassonnais. Ses parents habitent Carcassonne. Et voilà, c'est ce qui fait le charme des Ampello. Ben, il a eu envie de venir. Pourquoi? Pourquoi il a eu envie de venir? On le paie pas, on le défraie juste. Ben, il vient pour réaliser un mets truffé.
Un filet de loup au truffe sur l'île de Millas.
Et oui, le Millas, c'est quand même, ça fait partie, c'est aussi un incontournable des Ampello Folies. Tous les ans, il y a l'association des Biromanibello. Et puis Romani Bello, vous voyez, là, on tourne, ils font le Mia. Vous allez le voir, ça, dimanche.
Ah, nous, on danse
vous allez le Mia. Voir, bon, vous Mia. Allez voir le Mia, vous allez ensuite, ils vont en faire frire. Et donc, ce monsieur prépare ce filet de loup sur un lit de Mia avec une sauce, une espuma. Oui, mais alors, par contre, il n'y aura que 300 parts.
Ah, donc, il faut arriver tôt.
On arrivera tôt.
En fait, ils ont un concept hyper sympa que m'a expliqué Gérard. C'est que, par exemple, l'année dernière, ils ont fait venir un chef qui est gascon, hein, qui est du sud de la France, quoi. Ils l'ont fait venir d'Angleterre et lui ont dit, il faut que tu nous fabriques un burger. Donc, en fait, il y a aussi des burgers. Mais le concept, c'est que tu fais ta recette de burger à moins de 6 euros. Et après, tu t'en vas. Et nos bénévoles, ils sont capables de le refaire chaque année. Et donc, cette année, il y aura aussi...
C'est moi.
Des burgers.
Un burger truffé.
Notre stand.
Isabelle. Oui.
L'année dernière, j'ai travaillé avec Pascal, qui était là avec nous pendant toute la réalisation de, enfin, pendant toute la durée où on a vendu ces burgers, qu'on n'appelait pas comme ça, bien sûr, on les appelait.
Comment on les appelait?
Les entrepins aux truffes, au foie gras.
Ouais, parce que burger ici, non, quoi, à Moussoulès. Les Américains, là, et McDonald's, rentre chez toi.
Voilà. Une parenthèse.
Mais là, on fait des
déjà parenthèses. Que Pascal, alors Pascal Aussignac, toutes ces femmes étaient amoureuses de.
Il a un charme fou, il a été adorable, hein, il a été disponible, hein, mais il y en avait des beaucoup plus jeunes que moi, donc bon, j'avais aucune chance. Non, ça a été très sympa et il nous a surtout bien montré.
Comment faire ?
Ils sont tous jaloux. Hein.
Moi, je pense que...
Oui, Gérard, ça marche. Tout gère.
Bon, je pense que Rémi devrait aller faire un stage chez Pascal Aussignac, parce qu'il était vraiment charmant, ce Pascal.
Enfin, cette année, on est autonome et on fabrique nos entrepins seuls, avec les cinq de l'équipe de l'année dernière, et on va, j'espère, se débrouiller aussi bien
et
que...
pas de royalties vis-à-vis du
no,
chef.
No, no royalties, non.
Et alors, vous faites fabriquer, Gérard, à qui vous faites fabriquer le pain?
Le boulanger local. On lui met un cahier de charge, il nous fait le pain à notre demande, on veut telle longueur, tel truc, et il fait.
Et voilà.
Il fait 2000 pains quasiment pour l'eau.
Alors, c'est pas que... Mais il y a un certain rythme à instaurer dans une émission de radio. Alors donc, du coup, vous savez, l'animateur, il pose des questions, il enchaîne les chroniques, et bon coup.
Les verres sont vides.
Les verres sont vides. Myself into this. I hit a prove it. I'm so wild. I'm getting lost. Cause I need to understand. What part of me is driving me crazy? No, give me a break. No, give me a break.
Alors, juste en 10 secondes, ce qu'on boit là, s'il vous plaît, Richard Planas. Et puis ensuite, je vais demander à Yves Gobert d'aller s'installer parce que ça va être la suite. Richard Planas. Alors,
la cuvée que l'on déguste là, c'est le souffle des dieux du château de Parajol à Bagnoles. Donc c'est Jean-Marie Bertroux qui est un vigneron hors pair. Et cette cuvée, je la découvre avec vous et personnellement, on va faire un petit jeu de mots, je suis soufflé. Ah, moi j'adore ce produit, il y a de la densité, c'est frais, il y a de la fraîcheur. Ça peut être bu à l'instant, mais ça, on peut imaginer également de le conserver.
Oui, ça fait un peu jeune. Hein,
Il y a de la concentration sans la lourdeur que l'on peut parfois trouver en Méditerranée. Enfin voilà, moi là c'est mon coup de cœur. Il est sur la partie la plus méridionale de l'appellation, puisqu'il est mitoyen de l'appellation Minervois.
D'accord.
Donc sur la commune de Bagnoles.
Allez, vous écoutez CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste ? On est aux Ampélopholies du Cabardès, on n'y est pas tout à fait. On fait le bifort avec les copains. On fera l'after. Donc, si vous nous écoutez vendredi soir, sachez que vous avez tout le week-end pour nous rejoindre à Moussoulins. Hein, c'est direction Carcassonne.
C'est pas loin, les gars.
Samedi, ça va plutôt, et on va en parler dans la dernière demi-heure, ça va plutôt se passer à Montaulieu. Et samedi après-midi, voilà, ce sera plutôt littérature. Et dimanche, toute la journée, Moussoulins, Truffes, AOC, Cabardès. Et bonne humeur, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Ah, vous l'aimez, votre rendez-vous du vendredi soir. On vous donne quelques petites idées pour aller passer votre week-end ou pour mettre sur votre table quelques mets, quelques bouteilles à déguster avec Pascal Olivier, Georges Bonfils, Christophe Bory, Aurélien à la technique. L'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste était presque au complet aujourd'hui pour ces Ampélopholies du Cabardès. On fait un petit coucou, du coup, à Gaël qui n'aura pas pu venir ici alors que je suis sûr il l'aurait beaucoup aimé, étant donné que c'est notre spécialiste bande dessinée et que de la bande dessinée, forcément, il y en a aux Ampélopholies littéraires, puisque les Ampélopholies du Cabardès, c'est bien sûr à Moussoulins la dégustation de la truffe et du vin dimanche, mais c'est avant, à Montaulieu, le samedi, toute l'après-midi, les Ampélopholies littéraires. On va en parler dans quelques instants.
Montaulieu est le village des libraires.
Oui.
Voilà, ben on va en parler
très connu.
Ça va, mais...
Faites le lancement à ma place,
allez-y.
dites que je suis un culte, que ça ne va pas, que mes lancements ne vont pas bien. Bon, on en parlera, disais-je, avec Claire Taoussi, qui, elle, est la directrice des Ampélopholies littéraires. Montolieu, ouais non mais c'est trop village long, Montolieu, village du livre, etc., etc. C'est tellement long votre appellation, là, dites donc. Vous allez m'en parler dans un instant. Mais d'abord, nous allons faire connaissance avec Yves Gobert, sa musique, son accordéon, sa façon de travailler. Nous rediscuterons un petit peu aussi des vins AOC Cabardès, allez.
Bah heureusement.
C'est parti. Et puis Contizé, vous savez ce que ça veut dire, Contizé?
Oui.
Ah ben Pascal, c'est son truc à lui. Qu'est-ce que c'est qu'on boit là?
Le souffle des dieux,
le souffle des dieux. Gobert, c'est son nom, il est facteur, pas à la poste, mais facteur d'accordéon à Moussoulins. Yves Gobert, bonjour.
Bonjour.
Et merci de vous être prêté au jeu de faire les intermèdes musicaux de cette émission.
J'ai essayé.
Petite présentation des morceaux que vous venez de jouer, par exemple celui-ci que vous avez joué.
Alors c'était... c'est un morceau qui je ne me rappelle plus son auteur, mais qui a été créé à Toulouse par un très bon accordéoniste. Mais je ne me rappelle plus le nom du...
C'est pas grave.
Il fait du jazz d'ailleurs. Il fait du jazz, mais bon.
C'est pas. Qu'est-ce qu'on a comme accordéoniste dans le coin? Didier Dulieu, des gens comme ça.
Non, c'est.
C'est un bon accordéoniste. Du coin. Alors, vous êtes facteur d'accordéon. Ça veut dire que vous êtes fabricant d'accordéon. Voilà, parce que j'avais un doute au début. Facteur de piano, c'est celui qui accorde les pianos. Voilà. Mais pas forcément qu'il les fabrique.
Oui.
Alors je me demandais si vous accordiez les accordéons.
Oui. Alors dans l'accordéon, il y a cette appellation facteur d'accordéon qui veut dire un peu tout, un peu rien, quoi. Parce que vous allez rencontrer des gens qui accordent, qui réparent, mais qui sont facteurs d'accordéon. Vous allez rencontrer des gens qui sont facteurs d'accordéon, qui fabriquent, qui répare pas, qui accorde pas.
Et des accordéonistes.
Moi, je fais tout, moi.
Et des accordéonistes qui travaillent à la poste, qui livrent les, qui distribuent le courrier.
Je fais marcher la poste aussi. Oui, j'envoie par la poste.
C'est un monde clos, ça.
En quel bois ça se fabrique un accordéon comme celui? Alors, d'abord, il y a plusieurs styles d'accordéon. Il y a l'accordéon de papa.
Chromatique, c'est du chromatique ou du diatonique?
Alors, voilà, c'est l'accordéon diatonique. L'accordéon, c'est une grande famille. Vous avez le bandoneon, vous avez l'accordéon diatonique, le chromatique, le concertina.
Le chromatique, c'est celui d'Yvette Horner et le diatonique. Que c'est celui des Cajuns.
Voilà. Ah, mais je suis tombé sur un.
Et vous fabriquez quoi?
Vous l'avez dit, non?
Je vous avais dit que monsieur avait réponse à tout, qu'il savait tout. Il en est fatigant. Et donc, celui que vous fabriquez, vous?
Alors, moi, pour le moment, c'est le diatonique. L'accordéon diatonique traditionnel qu'on peut rencontrer un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. Et il y a des pays où, justement, l'accordéon diatonique. a pris le dessus sur le chromatique. Vous allez en Colombie, par exemple, vous pointez avec un chromatique, bon, ils vont rigoler, quoi.
C'est un instrument très occitan. On est en Occitanie ici. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout?
Tu fais rigoler là.
Bon.
Quoi?
Oui. Il y a très longtemps, parce que si vous voulez, dans cette région-ci, enfin je parle pas d'Occitanie là, je parle de
Moussoulens.
De Moussoulens, allez, de la Montagne Noire.
Cavardès.
Si D'accord. vous voulez, la musique traditionnelle s'est perdue dès la guerre de 14.
Parce qu'ils sont tous morts, ils ont été dégommés.
Parce qu'ils sont tous morts.
Comme les trufficulteurs, enfin. Oh.
Attendez, je vous explique un truc juste, c'est parce que c'est pas le sujet, mais. À l'époque, dans les campagnes, les gens jouaient de la bouddhègue. Et quand ils sont revenus de la guerre de 14, ils ont ramené l'accordéon diatonique. Enfin, ceux qui sont revenus, hein. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup qui sont revenus. Et ils ont détrôné complètement la bouddhègue. Tout le monde vous le dira. Mais elle est revenue, la bouddhègue.
Tout le monde vous le dira.
Si, à Moussoulens.
Mais c'est quoi la bouddhègue? C'est quoi la
bouddhègue? Ah, la bouddhègue, c'est la cornemuse de la Montagne Noire.
Ah, d'accord.
Et voilà. Ah,
mais la cabrette. D'accord.
Excusez-moi, j'étais parti sur des mauvaises bases, là.
Ici, blague à part, vous fabriquez donc des accordéons. J'imagine que c'est un instrument qui se fabrique un petit peu sur mesure. Ouais. Vous avez un atelier, une boutique. Où est-ce qu'on peut acheter votre accordéon?
Moi,
comment s'appelle-t-il?
J'ai pas de boutique, mais je m'adresse un peu à un milieu un peu particulier. Qui me connaît comme ça, parce que je vais sur des expositions de luthiers, sur les foires un peu musicales, comme ça, ou les festivals. Et j'ai pas besoin d'avoir une boutique, de toute façon, je suis pas du tout commerçant.
Voilà, ça c'est bien.
Ça se voit.
Ça se voit. Vous voyez? Et donc, je fais la réparation, l'accordage et la fabrication sur commande. Uniquement sur commande. J'ai pas de stock.
On vient vous voir, on dit tiens, je veux un accordéon.
Voilà, je veux un accordéon. Bon, combien de temps
il y a un site internet, Yves Gobert, quand même.
Ouais, alors j'ai un site, d'ailleurs, je vais vous donner ma
c'est
carte.
C'est quoi, yvesgobert.com?
Je vous donne ma carte.
Hop, allez,
voilà. Il y a bien entendu,
s'il y en a qui veulent des cartes.
Ivus. En fait, ce sont les accordéons Ivus.
Oui, Ivus, c'est ma marque.
Ivus ni Conus.
Ivus ni Conus. Mais du coup, il y a même
pas. Maintenant, ça va être Conus.
Il y a pas un magasin de musique quelque part qui expose un.
Pas du tout. Non. Je suis représentant exclusif de Ivus.
D'accord.
D'accord. On le verra aux Ampélofolies.
Et oui, au fait.
Vous êtes aux Ampélofolies. Marie-Cécile, c'est la dernière fois que je vous le dis parce qu'après, je ne pourrai plus vous le dire. Il faut parler dans le micro.
Oui. D'accord. Yves Gobert sera dimanche toute la journée, salle Émilien Combes, où vous pourrez voir les accordéons qu'il fabrique.
Le site internet d'Yves, c'est yvusaccordéon, au pluriel, .free.fr.
Et puis, vous pouvez, même sans marquer l'adresse internet, vous tapez accordéon Aude. Ah, sur Google.
Il y a que
alors toi. Là, c'est fini. Vous,
trust Google sur l'ode. Ça marche. Merci. Dis-moi quand même.
Eh oui, le mot de la semaine.
Le mot du jour. T'as pas envie de savoir ce que t'es en train de boire avant le mot du jour?
Si.
Rapidement.
Hein. Si, mais rapidement.
Hein, Richard Planas, parce que c'est révolutionnaire ce que t'es en train de boire. Alors, tu t'es même pas rendu compte de ça.
Il me l'a dit.
Non, tu l'as pas vu. Si. C'est révolutionnaire.
Ah, effectivement. Pigeage continuel, rotatif.
On vous propose de faire la révolution avec cette cuvée, qui est personnellement mon coup de cœur. Vous savez, je suis là à titre d'amateur de vin. Je suis président d'un club de dégustation d'un village voisin, maintenant Cabardès. Et nous amusons régulièrement à faire des matchs. Voilà. Et le dernier match, c'était le. Un derby, tout à fait. L'AOC Malepère contre l'AOC Cabardès.
Oh, ça a dû être dur, parce que Malepère, ils sont quand même...
demain soir, quand même.
Ouais. Ça a été très, 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 très serré. Alors, le Cabardès a gagné, et cette cuvée a été la cuvée préférée. Voilà. Donc, c'est la cuvée Révolution des vignerons, alors principale de la coopérative Moussoulens, Ventenac, Arzens. C'est un produit issu d'une sélection très serrée. C'est quelques rames de vignes chez un certain nombre de vignerons très sérieux qui sont sélectionnés. Et puis surtout, les raisins sont vinifiés entiers dans des barriques de 400 litres. qui sont sur un dispositif qui permet la rotation de ces barriques. Donc en permanence, le jus macère avec les pellicules. Voilà. D'où le principe de ce nom, la révolution. C'est millésime 2007, c'est une cuvée très haut de gamme, un produit qui est mûr.
Donc là, pas de flash pasteurisation, pas de flash détente, ni de trucs comme ça.
Non, de l'huile de coude.
Et du rotatif. Et du temps.
Allez, on va continuer ce week-end.
Eh oui, parce que quand on ne tourne pas la barrique pour faire une révolution, eh ben on peut contiser. Et contiser, c'est quoi? C'est incruster une viande d'une étymologie incertaine. On rapporte que ce mot serait lié avec l'illustre famille des Conti, hein, Romani Conti, à laquelle on aurait dédié une méthode spéciale de préparer les filets de poulet. Ben, contiser, c'est quoi? C'est l'action d'inciser un filet de chair crue et d'y incruster des rondelles, des lamelles ou des clous de truffes. Nous avons l'année dernière contisé de la saucisse après une soirée truffe. Contisé, qu'est-ce qu'on déguste?
Du canard.
Donc on peut aussi contiser des filets de poisson, des riz de veau, du gibier, des blancs de volaille, mais aussi des coquilles Saint-Jacques. On ne contise que des viandes blanches ou des poissons, mais jamais de viande rouge. Interdit, va des rétro satanas.
Et pourquoi?
On contise. Ben, c'est comme ça.
Un rôti de bœuf. Attends, un rôti de bœuf, c'est de la viande rouge. Eh ben, il est bien avec de l'ail.
Il n'est pas contisé, il est clouté.
Ah, voilà.
C'est tout.
C'est moins noble, comme disait Gérard.
Oui, on contise avec de la truffe noire le plus souvent, mais aussi on peut contiser avec d'autres champignons, type morille, cèpe, et parfois avec de la charcuterie. On peut contiser avec de la langue ou avec des crêtes de coq. On fait ensuite pocher à blanc au feu pour raffermir l'entaille, solidifier la truffe et blanchir les filets. On peut aussi contiser en laissant la truffe fraîche une fois que on a entaillé sa viande cuite pour y mettre la truffe fraîche. C'est un après délicat qui marie au mieux la truffe et les champignons à des chairs délicates de poulet et de poisson, sol surtout et bien sûr aux coquilles Saint-Jacques. Contisé.
C'est trop lui.
Vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste? On est à Moussoulins, c'est dans l'Aude. Pour les empélopholies du Cabardès. Juste avant dimanche, il y a samedi, juste avant les empélopholies du Cabardès, à la dégustation des truffes et de la haussée Cabardès de dimanche, il y a la littérature. C'est à Montaulieu que ça va se passer. Demain après-midi, on en parle juste après la chronique littéraire de Christophe.
On va retourner sur un livre qui est sorti il y a quelques années de Philippe Janada, qui est un auteur très connu. C'est La Grande Bouche Molle. L'écrivain a nommé le héros de son bouquin de son propre nom, Philippe Janada, et c'est pourtant pas autobiographique. Donc Philippe Janada, c'est un détective privé qui vit avec Anne Catherine. C'est un adepte des courses de chevaux. Il travaille pour le gros Gilles. Son quotidien consiste à effectuer des enquêtes peu glorieuses. Ça y est, là, c'est l'effet du Cabardès.
Peu glorieuses. Ça y est.
Un jour, la femme de certains persins le charge de suivre son mari. Elle est en effet convaincue qu'il la trompe et il souhaite obtenir les preuves de son adultère. C'est ainsi que, bien malgré lui, Janada se retrouve embarqué dans un incroyable périple. Janada découvre ensuite le cadavre d'une femme dissimulée près d'un hôtel, une Fabienne kidnappée, etc. Il y a tout un tas d'événements burlesques. C'est le troisième roman de Philippe Janada et on découvre avec joie la façon dont il se joue des stéréotypes du roman policier. Ici, le détective ne brille pas par son courage et l'enquête est loin d'être menée de façon conventionnelle. Par exemple, les indices ne sont pas extirpés par la force, mais grâce à quelques verres offerts aux habitués des bistrots normands. C'est une drôle de façon de mener une enquête. Et si malgré lui, Janada doit faire parler à poudre, eh bien il s'en excuse à chaque fois. Le style débridé de l'écrivain apporte ici un suspense inattendu et, comme à son habitude, de nombreuses réflexions ironiques sur ses contemporains. Ça se passe de Romans à Veules-les-Roses en passant par New York. L'écrivain détective Janada donc signe avec La Grande à bouche molle, un polar aussi drôle que réussi. Ça a été réédité en livre de poche. J'ai lu.
J'ai sorti mon Beretta de mon sac avant de courir, car j'avais peur de m'emmêler les pinceaux près de la portière. Puis je me suis élancé vers la Mercedes, félin, ruisselant, mort de trouille. Mais je n'ai fait que 3 ou 4 belles foulées avant de piler net parce qu'un grand bonhomme venait d'apparaître à l'autre coin du bâtiment. Pouvais-je déjà laisser tomber un plan si minutieusement établi? Eh oui, bien sûr, car sinon il allait me tirer dessus. J'ai plongé derrière une R5, félin, et je n'ai plus bougé d'un cil. Il m'avait semblé reconnaître le type en costume qui parlait de vessie de porc dans le hall. Quand j'ai entendu une portière claquer, cette percussion feutrée caractéristique de la Mercedes, j'ai relevé la tête. En restant sur mes gardes, à cause du rétroviseur, les grands truands regardent sans cesse derrière eux, par habitude. 4727 BBK75, surtout ne pas oublier ça. Il a démarré calmement, première, seconde. Quelle noble souplesse, putain, ces bagnoles. Et elle a quitté le parking, du côté opposé à celui où je me trouvais, pour rejoindre le parking principal. La sortie, adieu.
Vous retrouverez donc Philippe Djanada, La Grande Bouche Molle, aux éditions J'ai Lu.
Il y a des bouquinistes à Montaulieu, dites-moi samedi. Claire Taoussi, directrice des Ampélopholies littéraires de Montaulieu.
Alors oui, il y en a quelques-uns. Bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Il y en a 20 de bouquinistes et il y a 15 librairies. Mais la particularité, c'est que ce sont des livres anciens.
D'accord.
Donc on ne trouvera pas ce délicieux bouquin dont vous venez de lire quelques extraits, a priori, sauf sur commande. On y trouve essentiellement donc des livres anciens, des livres d'occasion, parus il y a quelque temps, mais on trouve surtout les éditions originales, les éditions épuisées. Voilà.
D'accord. Le concept, la philosophie des Ampélopholies littéraires, qu'est-ce que c'est ? Déjà, le village littéraire, moi je connaissais pas, hein, donc vous pouvez peut-être présenter, parce que je suis un peu l'inculte de la bande, c'est moi qui présente, qui parle beaucoup, mais c'est celui qui connaît rien. Alors s'il vous plaît.
Heureusement qu'il y en a un qui connaît rien, on peut briller.
Non mais, voilà. Bon, puis ça me permet d'avoir toujours une question à poser, vous voyez. Montaulieu, pourquoi c'est le village des libraires ?
Alors c'est l'appellation d'origine contrôlée, c'est village du livre. Nous sommes 8 en France, il existe une fédération à laquelle nous adhérons. Il y en a une 15aine en Europe et une petite 30aine dans le monde. Montaulieu existe depuis 20 ans. Il a été créé, c'est l'un des tout premiers avec Becherel. Il a été créé à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Michel Brébant, qui était relieur, passionné d'art, de littérature et surtout d'art et métier du livre. Il connaissait Montaulieu, il habitait un village voisin, Sessac, où il fit une première fois cette proposition qui a été refusée. Et il s'est rapproché de Montaulieu parce que Montaulieu est un très beau village en termes de patrimoine, de nature, et est assez pittoresque. Et le projet a séduit à Montaulieu les individus, les institutionnels, et puis surtout quelques-uns de ses amis libraires qu'il a rapidement fait venir, qui ont acheté 2-3 maisons en ruine. Ils sont arrivés avec leurs caisses de livres, leurs femmes et leurs enfants, et ont commencé cette vie folle et ont démarré le village du livre. Donc au départ, ils étaient 3, avec Michel Brébant, qui, lui, a démarché des amis imprimeurs qui étaient en phase de fermeture et donc allaient déposer à la casse ces divines machines, ces merveilleuses machines. Et donc, il a décidé de les récupérer et d'ouvrir un conservatoire des arts et métiers du livre. Et donc, dans le même temps, se sont ouvertes ces 3 premières librairies et le musée des arts et métiers du livre. Et ça a permis de montrer au public et surtout à la population une nouvelle facette, une nouvelle voie de développement, une nouvelle économie possible. Au fil des ans et depuis 20 ans, c'est donc 15 libraires qui sont installés à l'année, ouverts à l'année, qui vivent avec leur famille et qui en vivent humblement, simplement, mais malgré tout qui en vivent toute l'année.
Qu'on fait le déplacement, le client, l'amoureux du livre vient à Montaulieu, dans les librairies de Montaulieu, pour...
Et oui, monsieur, et rien que pour ça.
Mais c'est un mythe, c'est
extraordinaire.
Et rien que pour ça, et rien que pour l'amour du
livre.
À
l'heure où on peut télécharger son bouquin sur son iPad, on vient à Montaulieu.
On peut télécharger tout ce qu'il y a de plus virtuel, de plus fascinant sur Internet, mais jamais l'odeur, jamais le toucher, jamais le velours du papier.
Vécu.
et le vécu et le vécu d'un bouquin et puis pardonnez-moi mais du libraire, le conseil de cet amoureux plongé nuit et jour dans ses bouquins qui attendant le chaland et le client n'a de cesse de lire et de relire ces milliers, ces centaines de milliers de bouquins. Voilà une vie
Isabelle Kayser, vous devriez faire de la radio.
Oui, quelle voix.
Non, pas Isabelle Kayser, pardon. Hein. Pardon. Claire Taoussi.
Mal embauché.
Pardon, Claire Taoussi. C'est impressionnant.
On dirait un peu, on dirait. Ah bah,
vous faites
Macha.
Pas de la radio, vous avez pas. Ah, vous faites de la radio un petit peu. Quand même.
Oui, non mais bon, j'ai pas dit le look. Vous j'ai avez dit la voix.
Non, non, vous avez une superbe voix. Hein. Programme. Programme des empélophilies littéraires. Comment ça se déroule?
Alors. Les empélopholies littéraires. Il n'y a pas que la littérature, mais la, c'est la base parce que notre village est basé sur cette vision-là dans la vie. Alors, on y retrouvera dès 15h30 des lectures, une lecture publique avec Sophie Delarue, qui est une comédienne professionnelle qui intervient au conservatoire d'art dramatique à Toulouse et qui nous lira différents extraits, dont notamment et probablement des extraits de Ludovic Massé, un génie catalan, un auteur catalan, un auteur qui a écrit autour du vin, le vin pur notamment, avec une simplicité dans ses mots, qui aborde la vie paysanne, la situation des vignerons, la terre, le soleil et les sentiments. Voilà, d'une façon très simple et très accessible. Ensuite, nous rencontrerons des créateurs, parce que c'est aussi ça Montaulieu, c'est la littérature, mais aussi les arts graphiques et les créateurs. Donc deux créateurs, Pierre Lanoé et Iberia, Iberia qui est catalane. Et ce sont deux graveurs absolument exceptionnels qui sont basés aujourd'hui dans l'Aude, qui travaillent sur des plaques de cuivre. Et qui font de la gravure contemporaine, de l'eau forte principalement et de l'aquatinte. Ils nous parleront de leurs inspirations autour des paysages catalans. Ensuite, nous.
On va pas rentrer trop dans le détail parce que sinon on va arriver au bout de l'émission. Mais dans l'ensemble, c'est des rencontres avec des auteurs.
Auteurs,
avec des artistes,
créateurs,
des créateurs, des artisans d'art.
Absolument.
Durant toute l'après-midi, ça se passe où à Montaulieu? C'est sur la place du village? Comment ça s'organise?
Alors, non, ça se passe pas sur la place du village parce qu'un 26 janvier, on aurait un petit peu froid. Ça se passe dans le lieu principal du village, c'est le musée des arts et métiers du livre qui est au cœur du village. Voilà, de 15h30 à 18h, nous rencontrerons les invités catalans du cru à l'Elia, ce qui est quand même assez important. Voilà. Nous aurons une petite conférence sur l'histoire des vins, les origines du vin catalan. Et nous terminerons, juste pour le citer, avec une rencontre encore littéraire, avec un auteur qui est un musicologue et historien à l'Opéra de Bordeaux, pardonnez-moi. Et qui est aussi auteur, parce que c'est un grand amateur de vin et de gastronomie, qui nous présentera le petit livre de la truffe.
Merci Claire Taoussi et pardon d'avoir trébuché sur votre prénom tout à l'heure. Donc directrice des empélopholies littéraires à Montaulieu, ça c'est samedi donc après-midi. Peu de temps mais il m'en faut quand même parce qu'on vient de parler justement de ceux du cru d'Alélia. C'est les mecs qui sont invités quand même à venir présenter leur vin. Je suis pas sûr qu'on en ait dégusté un. On en a pas? Pourquoi pas? On n'a pas.
C'est pas là.
Alélia, là.
Les gens doivent venir déguster.
On pourra pas vous dire si
dimanche.
C'est bon.
Si, c'est excellent.
Je
pense que c'est dégueulasse.
Non, c'est excellent.
On sait pas.
C'est
alors,
excellent.
Alors, le cru Alélia.
Ah.
Le cru Alélia, c'est une pépite. Ah. Aux portes de Barcelone, personne n'imagine un cru de la sorte. Juste à côté d'une agglomération énorme.
Avec
c'est en plus un port de plaisance. C'est un port de plaisance. C'est une commune où il y a 8 vignerons, dont une coopérative. Donc 8 vignerons, donc ils viendront en délégation ce week-end. Principalement centrés sur les blancs, mais qui font également d'excellents rosés et vins rouges. Et puis nous dégusterons également avec les vignerons du cru Alélia des bulles catalanes, les caves produits par certains d'entre eux.
Ah ben voilà, gros programme hein, que ces Ampélofolies du Cabardès. On arrive un petit peu vers la fin de cette émission. C'est l'heure de notre juste questionnaire, gourmand. Très rapide pour faire le tour. Qu'est-ce que c'est? Ah ben dites donc.
Marie-Cécile.
C'est ah ben ça aurait été dommage de rater ça.
Anglaise truffée.
Crème anglaise truffée.
Avec une couronne, puisqu'encore on est au mois de janvier, une galette des rois.
Comment
couronne.
Ça se fait, ça, Jean-Louis Bicoulot, simplement, voilà. Une crème anglaise.
Une crème anglaise. C'est pas compliqué, on voilà. Prend une Jean-Louis crème anglaise, si vous avez le temps, bien sûr, vous la faites. Vous y faites infuser une julienne de truffe 48 heures à l'avance. Vous mettez du sel au frais sur votre récipient, vous tenez ça au frais, et c'est prêt à servir autour, en principe, d'un brownie au chocolat. Ou d'une galette des rois comme aujourd'hui quoi. Et c'est délicieux.
Oh mais il y a en plus une galette des rois.
On va se régaler. Oh là là.
On est bien reçu quand même ici par les Ampélofolies. Alors la truffe du pays Qatar. Qu'est-ce que c'est là? Mais on peut pas tout dire.
Oui, rapidement bien sûr. Depuis 2 ans, nous avons adhéré à la marque pays Qatar. Pays Qatar qui dans l'Aude est une marque vraiment déposée. Tous les meilleurs produits ont l'appellation Pays Qatar et la truffe a adhéré à cette marque depuis 2 ans maintenant. Et comme on a dit avec la truffe, on tire tout vers le haut, et notamment en termes culinaires.
Jean-Louis Micoulot, qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine de façon obligatoire ?
La truffe, bien sûr. Voilà. C'est incontournable.
Bon,
j'en vends bien sûr, mais bon, je sais quand même l'apprécier.
En juillet ou en juin, vous avez plus de truffes.
En juillet et en août, on ne pense qu'à rosage de truffiers.
Non, mais dans votre cuisine, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus de truffes là.
Moi, dans la cuisine, je suis un grilladin. On reçoit des copains et on grille. Surtout qu'autour de la table, j'ai vu qu'il y avait des adeptes de la côte à l'os.
Il y en a aussi.
Il y en a.
Richard Planas, qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine obligatoirement?
Forcément un tire-bouchon. Voilà. Et quelques quilles, principalement audoises. C'est un département que l'on ne connaît pas assez en termes de vin. Parce qu'évidemment, il y a le Cabardès, mais il y a aussi la Malepère, le Minervois, Limoux. Limière. Ces fameuses bulles, oui, Limoux, oui. La Livinière, le cru Corbière, le cru Boutonnac, la Clape, le Fitou. Ah, il faut revenir. Il faut absolument revenir.
Et ne manquez pas le grand marché aux truffes, dimanche après-midi à 14h30. Et puis, il y en aura aussi pour les enfants. Je ne vous l'ai pas dit, mais les enfants.
Marie-Cécile, c'est plus l'heure du programme. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine?
Dans ma cuisine, il y a du thym.
Non, c'est dépuratif.
J'allais pour Marie-Cécile, là. Marie-Cécile, elle écoute.
On arrive au bout, Pascal.
Oui, Pascal.
Vous aimez ça, mais vous avez honte.
Honte de quoi?
Voilà, tu vois, je pensais qu'elle allait accrocher.
Il est bête, c'est une chronique qu'on a abandonnée parce que les invités ne comprenaient jamais. Alors moi, je vous explique.
Personne ne comprend.
Vous avez honte, mais vous aimez ça. Moi, j'aime manger les raviolis froids quand j'ouvre
dans la boîte.
J'ai honte, mais j'aime ça.
Ah oui. Mais j'assume, je suis comme toi aussi, Rémi.
Alors, tu as honte, mais tu aimes ça.
Du lait concentré sucré.
Claire, t'as aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine?
Alors, dans ma cuisine, il y a des livres truffés. Vous savez ce que c'est?
Non.
Eh ben voilà. Alors, dans ma cuisine et dans toutes les cuisines des Montolivains, surtout des libraires Montolivains, il y a des livres truffés. Ce sont des livres dans lesquels... On trouve en plus des écritures de l'auteur ou des illustrateurs, des annotations, des explications techniques, des gravures, des aquarelles. Ce sont hors texte. Tout ça hors texte. Donc ce sont des suppléments, des petites merveilles, des petits cadeaux, et on appelle ça un livre truffé.
Oh ben voilà. D'où l'intérêt de jumeler ces deux fêtes, parce que vous êtes voisins. Vous êtes à combien de kilomètres de Moussoulins, là?
4
bornes. Voilà, messieurs, dames. Nous, on a fait le déplacement. Ça nous a pas pris longtemps. Et puis, on était quand même super contents. Hein.
Venez, les gars, parce que là, vraiment...
Les 5 et tous. Ah, vous voulez que je vous dise les 5 et tous?
Ouais, c'est Aurélien qui n'est pas content parce qu'on déborde la mort, là.
5 et tous, ont l'habitude, enfin, pendant...
Mais c'est la 5 et tous.
On tue le cochon, on le tuait sur la place du village. Et les gens venaient parer la 5 et tous. C'est pour ça qu'on nous appelle les 5 et
tous. On vous appelle les 5 et
tous. Voilà, ici, ben voilà. Place 5 et
tous. Merci de nous avoir accueillis pour cette édition exceptionnelle de Qu'est-ce qu'on déguste. On rappellera donc simplement qu'on est à Moussoulins et que samedi à Montolieu, dimanche à Moussoulins, se déroulent les 14e éditions des Ampélofolies
Pélopholie, du Cabardès, monsieur, dame.
Ça
de,
vaut le coup.
De la truffe, de la haussée Cabardès, tout ça, c'est que du bon, on vient de tester.
Oui.
Littérature, samedi. La Carthagène, c'est maintenant? D'accord. Bon, mais là, c'est, il est temps de rendre l'antenne.
Ouais, ouais,
là,
ouais.
C'est la Carthagène, c'est maintenant. Là, on...
On a oublié le jazz.
On a oublié le jazz?
Eh oui, c'est la deuxième, le troisième. Ouais, tu l'auras la semaine prochaine. Allez.
C'est vrai, Georges?
Eh oui.
Georges, la semaine prochaine.
Salut, Georges.
Au revoir, Georges.
Il faut pas aller dire à ma fille.
Il a fait une heure et demie de voiture pour...
Je suis désolé, Georges.
Il reste là.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste? Au revoir.
Au revoir. Salut.